Le journal de la rédaction vous est présenté par Tara Schlegel. Bonjour Tara.
Bonjour Géraldine, bonjour à tous. À Barcelone, les autorités communiquent l'identité du chauffeur de la voiture qui a fauché plusieurs personnes sur les Ramblas jeudi dernier. Point sur l'enquête avec Camille Magnard sur place en Catalogne alors que les tensions politiques et identitaires restent vives avec Madrid. Début des manœuvres militaires USA Corée du Sud ce lundi, opération récurrente depuis 50 ans. Mais cette année, le contingent américain est réduit, analyse de Louis Paligiano. En France, la réforme du Code du travail se précise cette semaine. Dès demain, les premiers syndicats sont reçus. Un point sur la méthode employée par le gouvernement pour verrouiller le texte avec leur verneau. Et puis nous serons en Allemagne où les relations avec la Turquie ne cessent de s'envenimer. Et à Londres qui va voir Big Ben se taire pendant 4 ans. À 12h45, la grande table d'été. Qu'y aura-t-il au menu ce lundi, Géraldine ?
Eh bien, une table ronde en forme de panorama, celui du documentaire, à l'occasion du film, du festival du film documentaire à l'USAC des 100 ans qu'aurait eu le réalisateur inclassable Jean Rouch. Et en seconde partie, un portrait d'Hervé Le Tellier, connu des auditeurs de France Culture et des Papous dans la tête, dont le récit Toutes les familles heureuses sort pour cette rentrée littéraire aux éditions Lattès.
À tout à l'heure, Géraldine Mosna, Savoie. C'est donc une confirmation, elle n'en est pas moins cruciale. Le gouvernement catalan a précisé l'identité du chauffeur de la camionnette qui a fauché des dizaines de personnes sur les Ramblas. C'était jeudi dernier. D'après la police de Catalogne, il s'agit bien de Younes Abou Yacoub, ce jeune Marocain de 22 ans, plusieurs fois évoqué déjà. Bonjour Camille Magnard.
Bonjour Tara.
Vous êtes en direct de Barcelone. Le suspect Younes Abou Yacoub est donc recherché désormais par toutes les polices d'Europe.
Oui, un avis de recherche international avec consigne de capture immédiate a été lancé sur la personne de Younes Abou Yacoub. La voilà, la principale conséquence de cette identification officielle qui ne fait que confirmer sur le reste ce que l'on savait déjà. Le jeune homme de 22 ans était seul au volant de la camionnette de location quand il a descendu la partie piétonne des Ramblas jeudi, faisant 13 morts et 120 blessés. Mais ce qui a aussi été confirmé ce matin par le ministre catalan de l'Intérieur, c'est que c'est bien lui, Younes Abou Yacoub, qui a tué un automobiliste, volait son véhicule et tentait de forcer un barrage de police 1h30 après l'attentat. Ça, c'était dans l'ouest de la ville de Barcelone. C'est à ce moment-là que la cavale a commencé à proprement parler. Depuis, très peu d'indices, reconnaissent les enquêteurs. Pas d'indice, en tout cas, qu'il ait quitté la Catalogne, même si les recherches se concentrent toujours sur la frontière française à moins de 200 km de Barcelone.
Alors, les progrès de l'enquête dont vous parlez, Camille, se dessinent sur fond d'une grande tension politique entre Madrid et la capitale de l'Espagne. Bien sûr, et Barcelone, capitale de la Catalogne, qui rêve d'autonomie. Un référendum sur l'indépendance est toujours prévu le 1er octobre. Et les polices, par exemple, madrilènes et catalanes, ont du mal à collaborer.
Alors sur le terrain, le travail est plutôt bien fait, les informations sont échangées, l'urgence et l'ampleur de l'ennemi terroriste commun ont remis tout le monde d'accord, mais c'est plutôt chez les dirigeants politiques que les tensions restent palpables. Ça s'exprime dans la presse avec des fuites sur l'enquête savamment orchestrées et souvent contradictoires entre Madrid et Barcelone. Chacun, on le voit, a son agenda politique et on sent bien que les ordres donnés ne sont pas les mêmes entre les Mossos d'Esquadra, la police catalane qui assure l'enquête sur le terrain, et les services antiterroristes aux ordres du pouvoir central. Ce matin encore, dans le journal La Vanguardia de Barcelone, on lisait une tribune du premier ministre espagnol Mariano Rajoy, un texte poignant qui appelle face aux monstres terroristes à l'union des forces, au dépassement des rivalités et des particularismes. Ça, c'est un message qui ne passe pas vraiment ici en Catalogne, hein, où on le rappelle, doit se tenir un référendum d'indépendance qui est contesté par Madrid. Ça doit être le 1er octobre prochain. Pour le moment, le prochain grand moment d'unité nationale affichée, ce sera la manifestation contre le terrorisme, manifestation de samedi. Et déjà, les indépendantistes et anticapitalistes du parti CUP ont annoncé qu'ils refusent de participer si le roi d'Espagne et son premier ministre sont présents.
Merci beaucoup. Vous étiez donc en direct de Barcelone et puis en la liaison technique. Merci à Laurent Lucas. Cette information qui nous vient de Marseille, qu'il faut prendre avec beaucoup de prudence. La police ne fait pas de lien pour l'instant avec le terrorisme. Un fourgon Renault Master a foncé sur deux abribus vers 8h30 ce matin. D'abord dans le 13e arrondissement à Marseille, faisant un blessé grave. Et dans le 11e, une femme a été tuée. Le conducteur a été interpellé sur le Vieux-Port. Il s'agirait d'un homme de 35 ans qui ne serait pas marseillais, dit une source policière. À l'instant, le procureur explique qu'aucun élément permettant de qualifier cet acte terroriste a été retenu et qu'on s'oriente plutôt vers une piste psychiatrique, fermée les guillemets. La lutte contre l'organisation État islamique sur le terrain militaire en Irak, l'armée soutenue par la coalition internationale a lancé hier une offensive contre Tal Afar, ville qui comptait 200 000 habitants, avant de tomber entre les mains de Daesh, l'État islamique, en 2014. C'est donc une nouvelle étape dans la reconquête du territoire irakien après la chute de Mossoul fin juillet. Il y aurait entre 10 000 et 50 000 civils piégés dans Tal Afar, estiment les Nations Unies. Et puis aux États-Unis, discours important de Donald Trump attendu ce soir sur la présence américaine en Afghanistan et la lutte contre les talibans. Le président sera en prime time, 16 ans après le début de l'offensive américaine, alors que les talibans contrôlent aujourd'hui presque 60% du territoire afghan. Donald Trump devrait annoncer un renforcement modeste des 8400 soldats US présents sur place. La décision a été, dit-on, très longue et difficile à prendre pour le président américain. L'Amérique qui montre ses muscles aux côtés de la Corée du Sud avec le début des manœuvres militaires conjointes Washington-Séoul, organisées chaque année depuis 1976 dans la zone. Cette fois, cela dit, les relations avec la Corée du Nord sont particulièrement tendues. Après les tirs de missiles balistiques nord-coréens en juillet, le ton a été extrêmement vif entre Kim Jong-un et Donald Trump. Il est donc intéressant de noter que cette édition 2017 va impliquer moins de soldats américains que d'ordinaire. Ils étaient 25 000 l'an dernier. Ils seront 17 500 GI cette fois-ci. En Corée du Sud, à Séoul, les précisions de Louis Paligiano.
Les exercices militaires sud-coréano-américains Ulchi Freedom Guardian, mis en place il y a presque 50 ans dans le but d'assurer la sécurité sur la péninsule coréenne, se déroulent à échelle réduite cette année. On dénombre 7 500 soldats américains de moins par rapport à l'édition précédente et les porte-avions à propulsion nucléaire ne seront pas déployés cette fois. Cela laisse penser que l'inquiétante escalade verbale entre Donald Trump et la Corée du Nord, ainsi que la menace proférée par cette dernière de lancer des missiles balistiques aux environs de l'île américaine de Guam, ont amené les armées américaines et sud-coréennes à diminuer l'envergure de leur entraînement pour ne pas aggraver la situation. Des conjectures immédiatement balayées d'un revers de main par le secrétaire américain de la Défense James Mattis, qui a affirmé que l'ampleur des manœuvres était prévue de longue date. Comme chaque année, Pyongyang a manifesté son mécontentement face à ces exercices en déclarant que cela revenait à verser de l'huile sur le feu. Pour rappel, le royaume ermite est habitué à mener des provocations pendant ses manœuvres militaires. En 2015, l'armée nord-coréenne a tiré un obus en direction du sud et l'année dernière, elle a lancé un missile balistique Mersol à partir d'un sous-marin avant de procéder à son cinquième test nucléaire. Séoul et Washington sont donc sur le qui-vive.
Louis Paligiano et puis cette collision dans le détroit de Malacca près de Singapour, un destroyer américain, un navire de guerre donc a heurté un pétrolier battant pavillon du Liberia à l'aube. 10 marins américains sont portés disparus. Cinq ont été blessés. L'équipage du navire marchand est indemne. C'est la deuxième fois en deux mois qu'un bâtiment de guerre de l'US Navy est impliqué dans un accident mortel. Partons maintenant pour Berlin où les relations avec la Turquie restent épidermiques à un mois des élections législatives allemandes. Dernier épisode en date, l'arrestation samedi dernier puis la libération hier d'un écrivain allemand d'origine turque qui a, je crois, la double nationalité. Doğan Akanlı a été interpellé en tout cas à Madrid à la demande des autorités turques qui avaient saisi Interpol. Bonjour Cyril Sauvageau.
Bonjour.
Vous êtes à Berlin. Alors l'écrivain a été remis en liberté, mais il ne doit pas quitter Madrid, ce qui veut dire, Cyril, que l'affaire est loin d'être terminée et elle a pris un tour politique.
Oui, interdiction de quitter Madrid le temps que les autorités espagnoles examinent la demande d'extradition de la Turquie. Doğan Akanlı n'est donc pas encore tiré d'affaire, mais sa remise en liberté est une petite victoire pour l'Allemagne qui a fait pression diplomatiquement sur Madrid ce week-end. Pour Berlin, il est inacceptable que le régime Erdogan pourchasse des opposants jusqu'à l'autre bout de l'Europe et qui plus est avec l'aide d'Interpol, puisque c'est une notice rouge qui a conduit les policiers espagnols jusqu'à cet écrivain dissident. Exilé en Allemagne depuis 25 ans et connu pour ses travaux sur le génocide arménien. Ce matin, Angela Merkel prévient « La Turquie ne doit pas abuser d'organisations internationales comme Interpol ». Cette nouvelle affaire vient s'ajouter à plusieurs cas similaires. Une dizaine de ressortissants germano-turcs sont détenus en Turquie, parmi lesquels le journaliste Deniz Yücel du quotidien Die Welt, emprisonné en février et qui est devenu le symbole de ce coup de froid entre Berlin et Ankara. Depuis le putsch manqué il y a un an, Recep Tayyip Erdogan a fait de l'Allemagne sa cible prioritaire. C'est là que vit la plus grande communauté turque à l'étranger. C'est là aussi que beaucoup d'opposants ont trouvé refuge. Et le président turc a bien l'intention de perturber la campagne électorale allemande. Hier encore, il a appelé les Turcs d'Allemagne à ne pas voter pour les partis ennemis de la Turquie, que sont, selon lui, les Verts, le SPD et la CDU d'Angela Merkel.
Cyril Sauvageau, en direct de Berlin, merci. En France, le gros morceau de la rentrée politique et sociale sera, on s'y attendait, la réforme du Code du travail avec les premiers arbitrages qui seront officiellement dévoilés demain. Le MEDEF aura la primeur du texte vers 14h. Suivront mercredi les représentants des salariés, CFTC et CFDT en tête. Pour l'instant, c'est le directeur de cabinet de Muriel Pénicaud, Antoine Fouché, qui est à la manœuvre. Bonjour Laure Verneau.
Bonjour.
Les discussions sur ces ordonnances ont commencé très tôt au printemps, juste après l'élection d'Emmanuel Macron, avec la volonté, on s'en souvient, d'aller très vite, mais aussi d'être efficace et surtout d'éviter les fuites, Laure.
Oui, Muriel Pénicaud ne veut surtout pas revivre le psychodrame de l'an passé avec la loi El Khomri. Rappelez-vous, la guerre contre le chômage annoncée par François Hollande était prévue le 9 mars, mais les grandes lignes du projet s'étaient retrouvées dans la presse fin février. Résultat, levée de bouclier à gauche, effondrement de la majorité socialiste et manifestation monstre. Sur certains aspects, la loi El Khomri a été torpillée. Alors cette année, la méthode a été revue et corrigée. D'ailleurs, Muriel Pénicaud elle-même n'a pas hésité à porter plainte contre son cabinet au mois de juin, lorsque son projet de réforme du Code du travail s'est retrouvé dans Le Parisien et Libération. Les ordonnances, elles, ont été écrites par une dizaine de hauts fonctionnaires triés sur le volet. Ils travaillent à l'écart de leurs collègues du ministère et disposent d'une plateforme internet spécifique pour partager les documents, comme le révèle le site Les Jours. La prise de notes pendant les concertations est autorisée, mais le document, qui fait près de 200 pages, sera consulté sur table. Aucun exemplaire ne pourra être emporté. D'ailleurs, cette semaine, les organisations sociales ne verront que les points arbitrés des ordonnances. Il leur faudra attendre le 31 août pour voir le texte dans son ensemble. Alors, comment avoir une vision de l'ampleur de la réforme si on ne montre que les parties émergées de l'iceberg? C'est toute la question. Les syndicats ne peuvent pas faire plancher pour l'instant leurs juristes sans version définitive du texte. La marge de manœuvre s'annonce donc très mince. Une volonté délibérée du ministère du Travail qui veut éviter une rentrée sociale chaotique.
Merci Laure Verneau. On évoquait le rôle important du directeur de cabinet de Muriel Pénicaud qui pilote donc ces discussions. Un mot justement de ces cénacles qui entourent les ministres qui pensent, qui mettent en œuvre la politique du gouvernement. On sait qu'Emmanuel Macron s'est montré extrêmement ferme. Il a limité par décret à 10 le nombre de conseillers au sein des cabinets. Bonjour, Frédéric Seix.
Bonjour Sainz. Tara, bonjour à tous.
Oui, il n'est que midi. Donc 10 personnes, c'est vraiment peu. Manuel Valls avait tenté de réduire ses cabinets à 15 collaborateurs, mais le plafond à l'époque était allègrement dépassé. Alors comment s'en sort le gouvernement d'Edouard Philippe?
Alors c'est vrai qu'une réduction de 15 à 10 collaborateurs, on pourrait avoir l'impression que la différence n'est pas notable. Et pourtant, c'est la philosophie générale qui a changé. Auparavant, ces limitations étaient précisées par une simple circulaire. Autrement dit, les ministres parvenaient toujours à s'arranger un peu, principalement en recrutant ce qu'on appelle des chargés de mission, qui ont l'avantage de ne pas apparaître au journal officiel. Désormais, ce qui a changé, c'est que cette limitation à 10 conseillers est inscrite non plus dans une circulaire, mais dans un décret. Autrement dit, y contrevenir est illégal. Du coup, hors micro, les conseillers se plaignent, ils sont en petit nombre, ils doivent gérer des dossiers très hétérogènes entre eux. Certains disent déjà être en surchauffe, 100 jours après le début d'Emmanuel Macron. L'Élysée, de son côté, dédramatise. C'est une simple phase d'ajustement, nous dit un conseiller élyséen. Alors décret ou pas, les plus gros ministères ont tout de même trouvé la parade. Gérard Collomb, par exemple, a détaché plusieurs conseillers de son cabinet en une sorte de task force dédiée à la sécurité. Résultat, il ne compte pas dans les 10, dans la limite des 10 imposés par le gouvernement. Le Canard enchaîné révélait aussi que Bruno Le Maire à Bercy a fait embaucher plusieurs de ses conseillers par l'administration, à la direction du Trésor, autant de méthodes pour parvenir coûte que coûte à l'objectif affiché, en tout cas pour l'image, c'est-à-dire que l'État s'applique à lui-même les économies qu'il demande aux autres.
Et ce n'est pas uniquement de la communication, ça change aussi la manière dont est fabriquée la décision publique.
Oui, c'est vrai Tara, c'est le deuxième objectif d'ailleurs, diminuer le poids des cabinets qui sont réputés faire obstacle entre le ministre et l'administration, entre le volet politique et le volet technique. Emmanuel Macron, en diminuant la place des cabinets, veut donner plus de place, plus de rôle à l'administration, la mobiliser et même la politiser. C'est pour cela d'ailleurs qu'il a annoncé vouloir changer les principales têtes des grandes directions pour s'assurer que les hauts fonctionnaires sont bien en ligne avec son projet. Une méthode qu'il n'avait pas appliquée quand il était ministre de l'économie, selon nos informations, confirmées par plusieurs témoins de l'époque. Son cabinet, quand il était à Bercy, comptait alors près de 30 membres officiels et officieux.
Merci Frédéric Seix. On va terminer en Angleterre avec les travaux de l'horloge de Big Ben qui va se taire pendant 4 ans, ce qui crée beaucoup de remous sur place. Marina Daras.
Mémorisez bien ce son, vous ne l'entendrez plus avant très longtemps. À part lors d'occasions spéciales comme le Nouvel An ou le jour de l'armistice, Big Ben va se faire très discrète, ce qui ne plaît pas à tous les londoniens qui ne comprennent pas pourquoi il faut faire taire ce symbole de la démocratie qui avait pourtant continué de sonner alors que les bombes allemandes s'abattaient sur la ville. Adam Watropski, l'architecte en charge des rénovations, leur répond.
On a tourné le problème dans tous les sens. Ça fait plusieurs années que l'on travaille sur ce plan de rénovation et il n'y a pas d'alternative. L'horloge doit s'arrêter parce que nous devons la démonter et puis tout simplement aussi parce que nous ne pouvons pas avoir de travailleurs sur un échafaudage de près de 100 mètres de haut et leur faire subir pendant des mois le bruit et le choc que les cloches vont faire toutes les 15 minutes.
Lélia est irlandaise, elle vit à Londres et adore venir passer du temps au pied de Big Ben. Elle est déçue de voir que les travaux ont déjà commencé, mais est prête à patienter le temps qu'il faudra.
Après ça, encore plus de personnes pourront profiter de sa beauté. Tant qu'à faire des travaux, autant tout faire d'un coup. C'est décevant, oui, mais ça en vaut la peine.
Voilà, et la première ministre Theresa May a protesté en vain contre ces 4 années de travaux. Le temps en France, bien gris au nord de la Loire, ensoleillé au sud. Je vous retrouve à 18h pour les prochaines informations.